Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux. Parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Bienvenue à toutes et à tous dans le 4e épisode de cette saison, qui est celui où j'accueille la talentueuse Loni, qui a sorti son premier très bel album, intitulé Ex Voto, au début de cette année 2022. Si je me prenais pour le Michel Drucker de la chanson, je dirais que son œuvre retranscrit bien tout son héritage de folk américaine, ou même anglophone, et que c'est en français qu'elle magnifie le genre à sa façon, avec une manière si singulière de confectionner la mélancolie. En plus, entre autres belles dates, Loni jouera à la Cigale à Paris ce 27 septembre, donc bah, allez-y je dirais. Ex Voto, donc, premier album de Loni, a vu le jour au début de l'année 2022. Il avait été pressenti bien avant, grâce au superbe single intitulé « Comme la fin du monde », paru en 2021, et qui ouvre le beau disque de Loni.
Tu me regardes, et sous mon ventre blanc, comme la fin du monde.
L'année d'avant encore sortait Incandescente, single placé à la deuxième place de la tracklist d'Ex Voto, et qui, personnellement, m'enchante comme au premier jour. Veuillez pardonner la pluie torrentielle qui se bat pour noyer nos voix à Loni et moi. Nous avons enregistré cet épisode un jour digne du Mélancolia de Lars von Trier, mais croyez-moi, ça pouvait pas mieux tomber avec la double de l'artiste.
Salut Loni.
Salut Raphaël.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Il pleut et il y a de l'orage. J'ai peur de l'orage, mais je vais être courageuse et ne pas hurler à chaque fois qu'il y a du tonnerre.
Oui, très bien. Bah, on ne sera pas obligé de préciser dans le podcast que tu t'es blottie contre moi dans le bus
bien sûr.
Quand l'éclair a éclaté.
Oui.
Mais je crois que c'est une météo qui est très à propos avec la daube de ton choix. Quelle est-elle?
Tout à fait, très bonne introduction. La daube de mon choix est, après avoir longuement mûri cette décision, j'ai choisi Evanescence. Donc voilà, pardon Evanescence de vous avoir choisi comme daube, parce que peut-être que même pour plein de gens, c'est pas du tout une daube, mais bon, pour moi, ça l'est quand même, parce que c'est tout de même une, très extrapolé, hein.
Tout à fait.
Comme musique, mais voilà, j'ai choisi le morceau. J'ai choisi quel morceau déjà? J'ai choisi le Hello.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Non pas celui de Lionel Richie, mais bien...
bien celui d'Evanescence.
Bien celui d'Evanescence.
Qui est un peu un titre indé chez Evanescence, qui n'est pas le plus connu, mais qui marque quand même une disposition psychologique très particulière dans mon adolescence, et qui est peut-être le point de, en tout cas le point d'ancrage où a pu se déployer mon amour pour la musique assez lyrique et assez triste aussi. Ça fait partie des petits points de rendez-vous comme ça dans ma vie. Hello de Evanescence, c'est beaucoup trop, j'ai un peu honte. Clairement, je pense que j'ai jamais parlé à personne de cette chanson. Et je me suis dit que c'était bien de me livrer.
Oh, quelle joie, nous sommes privilégiés aujourd'hui.
Mais oui.
Alors, Hello, j'ai fait mes petites recherches parce que Evanescence, moi, je ne connais que les énormes tubes auxquels on nous a habitués. Est issu donc du premier album, il me semble, du groupe, qui date de 2003-2004, je crois. Alors, tu me parles de ton adolescence. Donc, en 2003-2004, est-ce que tu écoutais Evanescence au moment où c'est sorti?
Oui, parce que j'ai 11 ans en 2004, et 11 ans c'est la 6ème, et là c'est le début quoi.
C'est le drame.
Tu vois, en plus moi j'ai eu ma puberté à ce moment là, je suis devenue un peu une femme à ce moment là, très vite, je faisais 1m70, j'étais genre la première, tu vois, pas la première, sûrement pas la première de la classe, mais la plus grande par contre, et j'étais, je crois, dans un corps qui me dépassait complètement, donc déjà ça c'était assez dramatique pour moi. Et ouais, j'ai écouté ça quand c'est sorti, sans en avoir conscience. C'est marrant, je me souviens pas que quelqu'un m'a dit « Tiens, c'est ça, c'est sorti cette année.
Ouais. »
À 11 ans, tu réfléchis pas du tout comme ça. Tu sais, la musique, elle vient à toi, tu sais pas trop comment.
Tout à fait.
Ça devait être sûrement ma copine gothique qui s'appelait Lorraine.
Big up.
Voilà, big up Lorraine, si tu m'entends. Qui était un peu goth et qui me faisait écouter ça. Paradoxalement, j'écoutais aussi Scapé. Voilà, j'étais plutôt très éclectique dans mes goûts. Oui. J'ai failli prendre Scapé pour la daube, mais je me suis dit que ce serait plus marrant, mais qu'on pourrait moins en parler. Alors que bon, là, il y a quand même un vrai truc. Et donc, je l'ai écouté quand c'est sorti. Je me souviens très bien de ce disque, avec la tête comme ça, bleue, elle s'appelait Amy Lee, la chanteuse.
Tout à fait.
Et elle avait une voix incroyable. Et moi, je me disais... En fait, voilà, j'écoutais ça et je sais pas, dans ma tête, c'était la plus belle voix du monde, c'était la chanteuse quoi. Et c'était ça que je voulais faire aussi. Je voulais vraiment, j'écoutais, je me disais, mais waouh, je veux chanter comme elle, je voulais tout faire comme elle. Et en fait, je pense qu'il y a un truc entre l'obscurité et la musique qui s'est lié dans ma tête à ce moment-là et qui s'est jamais complètement délié. En fait, même si j'ai appris à me calmer quand même, j'ai pas besoin d'Evanescence.
Parce qu'on a grandi aussi.
Parce qu'on grandit, qu'on met de la nuance. Mais à l'époque, c'était un peu la première fois j'utilisais la musique comme un exutoire mélancolique. Et donc voilà, je me souviens, j'écoutais ça le soir dans ma chambre. J'écoutais Evanescence dans ma chambre, j'avais gravé un CD, je l'écoutais sur mon Walkman. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir 72 ans quand je raconte
Dieu.
Ça. J'avais un Walkman. Bien sûr.
Non, mais bien sûr.
Et cette chanson, Hello, attention, j'ai choisi celle-là parce que avec ma copine Lorraine Gothique.
C'était son nom de famille, en fait. Nom Gothique, prénom Lorraine.
Exactement. Je me souviens, on était un peu obsédés en fait par parce que c'est aussi le temps des obsessions, tu vois, 11 ans, 12 ans. Et on marchait comme ça, on était complètement en boucle sur cette meuf, Amélie, et non pas Amélie. Sur Amélie. Et en fait, la légende disait un peu que Hello, c'était un morceau qu'elle avait écrit pour sa sœur morte. Voilà, je sais pas si c'est vrai, mais moi,
nice.
Tu vois, là, je t'en parle, j'ai jamais remis ça en question, mais peut-être qu'il faudrait que je le remette en question.
Déconstruis-toi, en fait.
Ah oui, il faut peut-être que je déconstruise.
Éduque-toi,
voilà.
Peut-être.
Je me déconstruise par rapport à Evanescence, mais dans ma tête, c'était genre, elle a écrit ce morceau parce que sa sœur est morte, et tout le morceau, ça dit, en gros, ça parle un peu d'un fantôme, tu vois, je sais pas si tu vas le diffuser, là, pendant
si,
le podcast,
si.
Donc, voilà, vous aurez l'occasion de l'entendre. C'est assez morbide, mais surtout moi je l'ai choisi comme dope parce que quand même musicalement ça vole pas très haut, tu vois. Ouais, c'est là, c'est trois accords pas très surprenants, c'est trop en fait.
Oui.
Puis elle est on dirait qu'elle va se mettre à pleurer dès qu'elle chante.
Elle est très affectée, oui.
Mais d'ailleurs, avec notre ami en commun Florian Refuge, on a beaucoup imité Evanescence, tu vois, comme étant le si t'écoutes bien la manière de qu'elle a de chanter, on dirait que vraiment que ça part d'un sanglot tout le temps. Et c'est vraiment trop.
Tout à fait. Alors, moi, ça m'a fait rire parce que... Enfin, rire, j'étais pas hilar. Mais donc, comme je le disais, je connais peu Evanescence. J'en avais une, moi, que j'aimais particulièrement, mais qui date de plus loin, je crois. Et j'ai écouté Hello, donc, pour me renseigner un petit peu. Et je me suis dit, ah, mais c'est marrant, parce que quand tu me parles d'Evanescence, moi, je pense plutôt à Bring Me To Life.
Oui, oui, rock un peu.
Voilà. J'ai vu, d'ailleurs, sur Wikipédia que c'est un groupe de métal alternatif, a priori.
Alternatif de manière assez alternative, justement.
Très, très alternative. Donc, mais bon, je sais que ça a cette réputation, voilà, plutôt rock, metal, etc. Ouais. Donc ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, c'est marrant que Lonnie ait choisi cette chanson parce que c'est très loniesque en ce que
préférer la chanson lente de tout l'album.
Exactement.
Évidemment. Mais ça, c'est mon truc à chaque fois, d'ailleurs. C'est tous les albums. Hein. J'aime la chanson acoustique, la chanson avec le moins d'instruments. Oui, effectivement. C'est vrai que ça m'inscrit complètement. C'est le début de ça chez moi, quoi.
Oui,
effectivement, de préférer la chanson qui va doucement, qui est la plus posée. Ah, c'est marrant, tu vois, je pensais que j'allais dire que n'importe quoi sur cette chanson, mais en fait, je la valorise tout de même. Je l'aime bien,
Cet Adobe, c'est ton hymne à l'Adobe.
C'est vrai, c'est mon hymne à l'Adobe, mais en fait, pour te dire, je ne l'ai même pas réécouté depuis.
Ouais.
Faudrait peut-être qu'on se l'écoute. Peut-être que je vais me mettre à pleurer, tu sais, ça va être super...
Enfin, gênant.
Oui, c'est juste gênant, en fait. C'est super awkward. Non, mais oui, effectivement, c'est vrai que sur les disques, en fait, c'est un peu mon truc de je choisis souvent le moment un peu posé, quoi, un peu plus et surtout plus mélancolique, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent en vrai là-dedans, qu'il y a plus de vérité qui passe, et puis j'aime bien aussi quand c'est pas forcément le tube, tu vois.
Oui.
Je pense que c'est la moins, à mon avis, enfin je sais pas, il faudrait peut-être regarder la tracklist, mais à mon avis c'est la moins connue, tu vois, ils ont dû faire des singles avec 4-5 chansons, et elle en fait pas du tout partie. Donc c'est peut-être aussi un petit aveu de j'aime bien quand c'est j'aime bien les choses un peu plus discrètes, quoi, et moins attendues.
Et alors c'est marrant parce que c'est marrant parce que je commence toutes mes phrases avec l'expression c'est marrant, alors qu'en fait
c'est vrai que c'est marrant, ça
c'est rarement
c'est marrant.
Hilarant, quoi. Mais c'est marrant parce que donc de ce que tu me dis par rapport à cette daube et par rapport à ce que tu peux écouter en général, toi, la musique que tu vas faire en tant que Lonnie, ça peut s'en rapprocher en ce que tu vas opter pas mal pour des tons mélancoliques, quelque chose effectivement d'assez lent, d'assez minimaliste, voilà. Est-ce que tu vois une logique là-dedans? Parce qu'on en parlait notamment avec Pomme dans son épisode, qu'on salue, qui disait qu'elle se rendait compte qu'elle avait trop longtemps essayé de faire la musique qu'elle écoutait, et qu'en fait, elle s'est rendue compte que la musique qu'elle écoutait n'était pas nécessairement la musique qu'elle voulait faire pour autant. Tu vois.
Ouais, je vois très bien ce qu'elle veut dire. J'ai un petit peu le même truc. Alors, il y a plusieurs choses un peu dans ce que tu me dis. Déjà, moi, je crois que j'aime bien l'idée de la radicalité dans quelque chose de doux, en fait, et d'aller d'aller un peu au bout du dépouillement, tu vois, et de la douceur, et de le prôner comme une forme de quelque chose d'un peu punk, en fait, tu vois. Et là, en ce moment, dans le paysage musical, je trouve que ça s'agite beaucoup. Je trouve qu'il y a un peu trop de disco. Un peu trop de pas de def. Non, ça s'agite beaucoup. Et ça veut tout le temps un peu danser, et ça veut tout le temps un petit peu s'agiter. Et c'est vrai que moi, j'aime bien... Ça me fait du bien de rester dans ma posture plus lente, en fait. Et je crois que, pour le coup, ça, c'est même pas qu'en ce moment, depuis longtemps, j'ai un peu ce truc-là. Et après, par rapport au fait de faire la musique qui sort de soi, et non pas la musique qu'on décide de faire, ça, je suis entièrement d'accord. Et je pense que, d'ailleurs, toute démarche artistique doit, si elle veut vraiment aller au bout de son truc, doit passer par le fait de pas se la faire à l'envers, déjà auprès de soi-même, quoi. C'est-à-dire de vraiment dire, mais c'est quoi la musique qui sort de moi là aujourd'hui? Tu vois, j'essayais des guitares tout à l'heure à Pigalle, et bien sûr, moi j'aurais voulu vivre, dans le Tennessee, être née à Nashville, quoi, tu vois. J'aurais voulu jouer comme ça sur une grande jumbo de chez Gibson, mais je ne suis pas ça. Et rien que, tu vois, dans mon choix de guitare, je vois bien que je suis pas Joni Mitchell en fait, donc je peux pas exactement jouer sur les mêmes genres de guitare qu'elle. Et effectivement, je pense que ça c'est un truc hyper important. Après, honnêtement, pour revenir à notre daube, je suis quand même très reliée à mon choix daubesque.
Oui,
tu vois, je suis quand même restée là-dedans. Et effectivement, je me définis comme ça. J'aime bien être la personne qui propose quelque chose de plus doux au milieu d'un monde qui va très vite. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Ce qui définit bien ce titre-là dans cet album-là, effectivement.
Ouais. Après, vraiment, ce titre-là, il est pas apaisé.
Non.
Tu vois, il va quand même très loin dans le.
Il est très affecté.
Voilà, et oui, ça, oui. Pour le coup, ça, c'est pas. Moi, j'essaie quand même de trouver de l'apaisement, tu vois. Même si ce sera peut-être plus efficace que je sois plus déchirée, tu vois. Mais moi, je cherche plutôt la droiture et la vérité. Et clairement, non, je ne vais pas me mettre dans tous mes états parce que ça serait plus, je sais pas, plus mordant, tu vois, pour le public, ou pas tellement. Là, pour le coup, cette espèce de plaisir à souffrir, moi-même, j'essaie quand même de le réguler chez moi, beaucoup.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que on aurait pu penser qu'effectivement, tout ce qui est mélancolique, tout ce qui est lent, tout ce qui se veut, donc là, en l'occurrence, pas te concernant toi, mais la musique, tout ce qui se veut affecter, est nécessairement relié à quelque chose de triste, parce que tu disais, c'est un peu punk d'assumer quelque chose de lent dans un monde qui va vite. Donc toi, cette chanson-là ne te plaît pas de par son côté triste, mais plutôt par ce qu'elle représente dans sa lenteur et dans le fait qu'elle soit minimaliste par rapport aux autres, qu'elle s'accompagne essentiellement au piano.
Oui, en tout cas, si je dois la glorifier au-delà du fait que Evanescence, de manière générale, comme je te disais, c'était le point d'ancrage pour le lyrisme, cette chanson-là, si je dois la glorifier, oui, effectivement, c'est plus parce que c'est le piano-voix du disque. Ça, c'est sûr.
Ouais,
clairement. Et comme je te disais, parce que pour moi, c'est le départ, c'est vraiment le départ de mon amour pour tout ce qui était lyrique. Et après, tu vois, de Evanescence, je suis passée dans mes écoutes à John Baez, par exemple, tu vois.
Oui.
Et y a un lien entre les deux, c'est ces voix très lyriques, très vibrées, quelque chose de
clair aussi.
Ouais, assez, c'est vrai. Ouais, de plutôt assez au perché, assez... Ouais. Mais elle a son côté drama à elle, John Baez, tu vois. Ah,
totalement.
C'est vraiment la grande. Et puis même dans son histoire, tu vois, c'est la grande femme abandonnée par Dylan. Elle a un côté, tu sais, pleureuse italienne un peu, tu vois.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc ouais, non, je remercie quand même vachement Evanescence d'être arrivée là en 2004 pour cet accès à. Voilà, au fait de se laisser aussi un peu pleurer, un peu geindre.
Mmh. Ouais, ouais,
c'est
totalement.
Pas pleurer, c'est geindre, tu vois. Et ça, pour le coup, ça fait plus appel à mon cerveau de mélomane que de musicienne.
Oui, d'accord, voilà. Très
moi,
bien.
Moi, j'essaie très de bien. Ne pas geindre dans ma musique, vraiment. J'essaie de garder une espèce de dignité, tu vois, de garder une forme de distance. Et c'est pas simple, parce que... Parfois, je me vois geindre et c'est jamais bon. Je vois bien...
Ni beau.
Ni beau, mais non, c'est pas beau, en fait. Moi, ce que je trouve... Enfin, en tout cas, moi, je sais que mon émotion, je la... Sur scène ou quoi, je viens la chercher quand je sais rester digne. Si je dépasse la stricte limite de la dignité, ça va plus. Je me répands. Et là, ça, c'est l'horreur, quoi. Donc, moi, ça ne corrige... Pour le coup, ça... Je suis pas une pleureuse, en fait. Voilà. Mais j'adore les pleureuses. Et il y a des pleureurs aussi. Il y a un artiste qui s'appelle Gene Clark, je ne sais pas si tu le connais, le chanteur d'un groupe qui s'appelle Les Birds, dans les années 70, que j'adore aussi. Enfin, je ne sais pas, il y en a plein, des hommes pleureurs aussi, tu vois, je ne sais pas, qui y aurait aujourd'hui. Tamino, par exemple, tu vois.
Oui,
c'est un peu un pleureur, ou Jeff Buckley, tu vois.
Oui,
c'est
tout
des,
à fait.
C'est des grandes voix comme ça. Moi, je ne sais pas du tout faire ça, mais j'ai une grande admiration pour ça. Et puis c'est vraiment des moments quand même où tu peux te laisser aller à chialer sur ton canapé avec aisance.
Complètement. Quand tu rentres du studio où tu n'as pas voulu pleurer, là tu n'es plus chanteuse, voilà, tu es mélomane.
Exactement.
Tu te roules en boule et tu chiales.
Et c'est vrai que je pense qu'on a une... Enfin, en tout cas, je suis un peu comme Claire là-dessus. Je crois que ma vie de mélomane et ma vie de musicienne sont quand même... Même si ça reste dans les mêmes sphères, quand même scindé, de manière subtile, mais oui.
Très bien.
Voilà.
Mais donc, tu pouvais écouter cette chanson-là, en l'occurrence, et autres artistes que tu as pu citer, pour pleurer, parce que je sais que ça c'est pareil, c'était un sujet que j'avais eu notamment avec Flore de l'Impératrice, qui elle disait qu'elle assumait complètement, tu vois, par exemple dans une peine de cœur, elle va écouter un truc qui va lui rappeler à quel point elle a le cœur brisé parce qu'elle a envie de chialer, tu vois.
Complètement.
Alors que moi je suis dans le déni,
toi,
tu vois.
Ah oui, toi t'écoutes.
Moi je vais me relever.
Tu fais
vois.
La fête.
Je fais pas la fête, mais je vais écouter des trucs empowering.
Empowering,
un peu,
ouais. Genre You're So Vain de Carly Simon.
Exactement.
Super titre pour se relever d'une relation.
Tout à
difficile.
Fait. Tout à bien fait. Sûr. Alors que quand je vais être. Bon, là on prend l'exemple de l'amour, hein, mais il y en a plein d'autres, mais c'est parce qu'on parlait de cœur brisé. En revanche, quand je suis dans une relation avec une personne et que les choses semblent en tout cas bien se passer, j'aime bien écouter les chansons tristes que je m'autorise pas à écouter.
Non.
Si.
Ah, c'est marrant, on a foutu complètement à l'envers.
Ouais.
Ah, c'est drôle. Et alors pourquoi ? Parce que ça t'équilibre ?
Bah, je pense que oui. Parce que je pense que l'un comme l'autre dans les deux cas me sauve un peu de mon état. C'est-à-dire que la chanson triste va me permettre un petit peu de me faire baisser d'un ton et de me rappeler que bon, c'est pas...
Ouais. En fait, c'est pour t'éviter d'aller trop loin.
Ouais.
Peut-être de t'engouffrer dans un état, d'être en boucle en fait sur un truc, quoi. Ah oui, je comprends. Alors moi, c'est l'inverse. Je vais en boucle.
Ouais. Hello de Evanescence, c'est pour chialer, quoi.
Oh oui, c'était dans les moments horribles. Ouais. D'ailleurs, je crois que évidemment ma première peine de cœur, j'avais 11 ans.
Ah, ouais, quel connard.
Au ski.
Big up.
Voilà, il m'avait pris la main et le lendemain, il ne m'a pas repris la main et c'était très dur, tu vois.
C'est tout.
Hello, évidemment. J'écoutais aussi Nightwish. Putain, j'ai failli prendre Nightwish. J'ai failli, mais je me suis dit qu'il y avait moins de rapport avec la... Nightwish, c'est vraiment... Je n'explique pas Nightwish dans ma vie. C'est-à-dire, tu connais ce groupe pas de métal symphonique, avec une voix lyrique et tout. Je n'explique pas le rapport entre Nightwish et tout ce que j'ai pu écouter après. Evanescence, j'ai réussi à faire plus de ponts. Mais non, moi, c'est vrai que peine de cœur, je me suis même fait une playlist sur Spotify il y a quelques années quand j'ai été très, très, très peinée... En amour, une playlist mais vraiment entière de trucs. Quand je la réécoute aujourd'hui, je me dis, mais je suis folle, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais non, c'est un vrai exutoire. En fait, c'est quand même génial de se dire qu'il y a des gens qui te tendent leurs bras pour dire, mais vas-y, moi j'ai mis des mots sur ce que tu sens, donc vas-y, pleure. Et je trouve que d'ailleurs, souvent, je sais que le moment où je pleure dans une chanson, souvent, c'est quand il y a une parole qui décrit avec. Une sorte de quota de précision, tu vois, exactement ce que je ressens. C'est genre là, bam, je vrille parce qu'il y a deux phrases où je me dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est moi.
Tout à
fait. Waouh, c'est mon histoire. Et en même temps, c'est très rassurant de se dire qu'il y a.
Complètement.
Voilà, peut-être que le réconfort est là, en fait. C'est que, oui, ça peut sembler complètement maso de pleurer sur une chanson triste, mais en même temps, ça rend le truc, ça rend ta douleur universelle. Et ça, c'est génial, quoi, de te dire, putain, en fait, En fait, on est tous foutus pareil. En fait, on est juste un tas d'électricité qui se connecte avec des hormones.
Ouais. Plein.
Plein d'hormones. Et voilà, à 11 ans aussi. Et c'est universel. Et en fait,
on n'est pas tout seul. Ouais,
ouais, ouais, c'est ça. On a tous... moi, je sais que dans mon spectacle... Enfin, dans mon spectacle, dans mes concerts.
Dans mon
grand spectacle. Ouais, par rapport à mon... pendant mes concerts, en ce moment, je dis au public, je parle d'une peine de cœur et je leur dis souvent si quelqu'un d'entre vous n'a jamais traversé de peine de cœur, j'aimerais vraiment qu'il se manifeste à la fin du concert. Jusqu'à présent, il y a une personne qui s'est manifestée. Ouais, une dame de 75 ans qui est toujours avec son mec depuis qu'elle a 15 ans. Ouais, non, voilà. Et genre, ils s'aiment encore et tout, tu vois. Je lui ai demandé, elle m'a dit, oui, on s'aime encore.
Connasse.
Bon, voilà. À part cette meuf-là qui est incroyable, et non, mais que j'oserais même pas insulter, mais je comprends. Elle était tellement lumineuse et tout, je me suis dit, bah oui, bien sûr, oui. Mais à part elle, oui, en fait, tout le monde a vécu ça, et la musique, c'est quand même un accès direct à l'intime des autres, quoi. Putain. C'est génial.
Tout à fait. Et alors là, je m'adresse à la mélomane et à la musicienne.
Ah oui.
Parce que peut-être que la réponse ne sera pas la même. Alors, je prends un exemple concret parce que j'ai aucune pudeur et que je m'en fous.
Ouais.
Mais moi, donc je te parlais de mon premier vrai love de 17 ans avec qui ça s'est terminé dramatiquement comme toutes mes ruptures. Bon, j'avais 17 ans. On est sur l'hymne à la daube, donc j'ai le droit de dire que j'écoutais ça parce que ici, il n'y a pas de tabou. Mais donc, on n'était plus ensemble et j'écoutais. When I Was Your Man de Bruno Mars.
Ah ouais?
Ouais. Oui, bon, ça va.
Oh, oui,
ça, c'était il y a 10 ans, foutez-moi la paix.
Très bien.
Ouais. J'écoutais ça et je me disais, putain, donc à l'époque, hein, il y a 10 ans, je me disais, mais waouh, c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Et je me disais, est-ce que quand tu écris cette chanson, quand tu écris cette chanson, tu as forcément trouvé ton inspiration dans ton expérience personnelle. Enfin, je vois mal.
Quelle chanson quand tu écris
Rupture, When I Was Your Man de Bruno Mars.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vas forcément t'inspirer d'une expérience personnelle, tu vas pas écrire sur une rupture si t'en as jamais vécu, je pense. Enfin, peut-être que ça existe, mais à mon avis, c'est
plus mystérieux, rare. Hein, ça, mais ouais, oui, je pense pas quand même. Ouais.
Et est-ce que quand tu souffres, quand t'es en pleine peine de cœur, encore une fois, là c'est l'exemple de l'amour, mais c'est pas obligé d'être que ça. Par exemple, Émilie, si elle a perdu sa sœur, etc. Mm. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu es capable d'affronter tes sentiments et de les poser en mots et en mélodies ? Parce que moi, je me disais. Quand je suis en souffrance totale, je ne suis pas capable d'en parler. Déjà, c'est compliqué, mais en plus de produire dessus, tu vois, de créer là-dessus.
Mais non, parce que en fait, quand tu es au cœur du truc, pour moi, tu as été en... Moi, je mange des chips devant la télé. Hein. Enfin, t'as pas d'énergie, en fait.
Moi, c'est
tu vois,
quand
sur
je fais
moment,
bien,
ça
quand
va
je fais
pas,
ça,
quoi. Mais... Ah ouais. Non, moi, je te parle des chips de la loose, tu vois, plus ceux où tu culpabilises et tout. Enfin, dans le sens où quand t'es vraiment au cœur du truc, moi, j'avoue que je crois qu'être... En fait, te mettre à la table là et écrire une chanson, ça veut déjà dire que t'es en processus d'aller mieux, quoi. Tu vois.
Ouais, tu
quand
ouais.
vraiment t'es dans le pic de ta douleur, moi perso, j'ai aucune énergie, donc je peux pas, je suis juste pas bien et je serre les dents. Mais par contre, l'écriture de chansons, enfin là pour Ex Voto, type, si on doit
album de Loni,
parler que de ce disque parce que c'est mon seul disque.
Mais quel disque ?
Ouais, parce que par rapport à mon cinquième disque en 73. Non mais voilà, Ex Voto, je me suis quand même mise au boulot rapidement parce que j'avais prévu des sessions de studio de toute façon. Il fallait que je finisse des chansons. J'en avais genre 3-4, genre comme La fin du monde et Incandescente, voilà, mais je sais qu'Avril Exil, par exemple, qui est la chanson de rupture, ben elle, je m'y suis mise pas longtemps après, hein, peut-être 2 semaines après, parce que j'étais au pied du mur, tu vois. Donc voilà, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix.
C'est pas mal de pas se laisser le choix, cela dit.
Oui, moi je conseille ça à tout le monde. Tous les gens qui veulent créer, mettez-vous des deadlines. Mm. En fait, c'est impossible sinon. Si t'as pas de deadline, moi je trouve qu'il faudrait presque faire les choses à l'envers. Il faudrait presque booker la tournée pour dans 2 ans. Booker le studio dans 1 an et se dire, bon, bah, j'ai telle date pour m'y mettre parce que, enfin, en fait, on procrastine avec la création si on est normalement constitué. Enfin, moi, perso, moi et puis même tout mon entourage, sans deadline, il ne se passe pas grand-chose. Donc, moi, en fait, j'étais presque, tu sais, quand j'ai eu ma peine d'amour à ce moment-là, je me suis dit, le premier truc que je me suis dit, c'est, ah yes, putain, ça va me faire un sujet pour mon album. C'est quand même bizarre.
Ça part en prod,
voilà,
en fait.
Voilà, ça part en production. Bah, en fait, c'était un des premiers réflexes quand même que j'ai eu très vite. C'est de me dire, bon, ben... j'ai failli même écrire une chanson qui s'appelait Thanks for the Breakup Song. Et je l'ai écrite, mais elle n'est pas sur le disque.
Oh,
c'était
merde.
Un peu trop premier degré. Peut-être pour le prochain.
Yes.
Mais non, moi en tout cas, je crois qu'on peut l'écrire. Voilà, à partir du moment où on reprend des forces, ça peut être un bon moteur pour aller mieux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'écrire sur une situation qui nous fait souffrir, c'est déjà, pour moi, c'est déjà admettre qu'on va mieux. Donc si on ne veut pas aller mieux, c'est sûr enfin voilà, mais en tout cas si j'ai pas envie d'aller mieux, je ne vais pas écrire quoi.
Très bien.
Je sais pas si ça a du
sens.
Si,
tout à fait. Tout à fait. Et alors donc cette chanson que tu affectionnais tant et pour laquelle tu as encore beaucoup d'affection, tu l'as choisie pour en parler dans l'hymne à la daube. Mais alors pourquoi une daube ?
Pourquoi une daube ?
Mmh. Pourquoi c'est une daube ?
La mélodie, c'est trop... En fait, c'est une daube parce qu'il n'y a rien de surprenant.
Ok.
Moi, c'est comme ça que je définis la soupe et pas la soupe. C'est qu'il n'y a pas trop de risques quand même en termes d'écriture de chansons. On ne prend pas un grand risque. Chaque note qui arrive, tu l'anticipais. Tu vois ?
Oui, bah déjà voilà. Parce que le piano fait, oui, effectivement, 3 notes.
Voilà, c'est un peu... Déjà, la prise de son, c'est très léché, il n'y a pas trop de risques, il n'y a pas... et surtout, c'est pas très surprenant, tu vois. Moi, en tout cas, je sais que la musique que je considère être une musique, comment dire, grandiose, ben, c'est en gros quand tu t'y attends pas, mais que quand ça arrive, tu fais « Ah ben, c'est une évidence ». Tu vois. D'accord. Mais qu'en même temps, tu t'y attends pas.
D'accord.
Voilà.
Oui, oui, tout à fait.
Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc un peu comme ça. Et Evanescence, tu t'attends. Je trouve quand même que tu t'attends un peu à tout. C'est cliché, en fait. Voilà. Oui, oui. Pour moi, c'est ça un peu une daube. C'est quand c'est un peu cliché. Mais ça veut pas dire qu'on n'y prend pas de plaisir.
Bien sûr.
C'est aussi te donner, c'est aussi donner du nam-nam à ton cerveau et qui parfois a envie de se reposer. Et pour le coup, moi, je fais le parallèle, par exemple, avec les films. Autant en musique, je me prends la tête sur ce que j'écoute et vraiment genre je collectionne des disques, je les écoute. Pour moi, j'ai jamais la flemme d'écouter un bon disque. Par contre, en film, oui, j'ai la flemme de regarder des bons films.
Oui, tu d'accord. Vois,
entre un Romer et je sais pas et le dernier Batman ou le James Bond, tu vois, je vais très facilement faire la facilité.
D'accord.
Je vais très facilement dire, oh là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Pour le coup, avec la musique, je suis pas trop comme ça. Je me dis jamais, oh, j'ai pas envie de me prendre la tête, quoi. Donc, c'était dur de trouver une daube en vrai.
Ouais, oui, oui. Bah, je sais, je vous complique la vie à toutes et tous, mais j'aime bien.
Ouais. Et toi, pour toi, c'est quoi une daube ? Enfin, si j'ai le droit de poser des questions.
Non ! Non, non, mais c'est bien sûr. Alors, juste déjà pour revenir sur ce que tu as dit, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce que j'allais dire, c'est la différence, à mon avis, entre. Fais plus de bruit, peut-être.
Pardon, non, quand tu parles.
C'est la différence entre l'évidence et la facilité, je pense.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Exactement.
Et c'est pas grave la facilité, effectivement. Voilà. Ça peut être effectivement très jouissif. Mm-hmm. Alors moi, on m'a déjà demandé. Et en fait, je pense que déjà la définition de la daube dans le contenu de ce qu'elle représente, ça peut changer tout le temps.
T'as raison. Modes.
Voilà, c'est les modes, etc. Vraiment, parce que moi, la daube que j'avais prise en exemple là dans mon premier épisode pour imager un peu mon propos, c'était une chanson des Jonas Brothers.
Ouais.
Mais si j'avais aimé les Jonas Brothers quand j'avais l'âge d'aimer les Jonas Brothers, donc quand je regardais Disney Channel quand j'avais 10-11 ans, quoi, ouais, ça aurait pas été une daube, quoi, tu vois. Mais ouais, c'en est une maintenant parce que ça n'a rien à voir en fait avec ce que j'écoute d'habitude.
Ouais, je comprends. Oui, c'est qu'il y a un truc de bon goût quand même.
Voilà.
De bon goût où il y a un consensus humain sur le fait qu'il y a des trucs qui sont bien, des choses pas bien. Alors, attends, il y a un phénomène avec ça, par exemple, qui est très intéressant, c'est Bruce Springsteen. Mmh. Bruce Springsteen, c'est marrant parce qu'il a une image en France de gros beauf.
Ouais.
Et moi, j'adore Bruce Springsteen, je l'écoute. Il y a deux albums que j'écoute énormément, c'est The Ghost of Tom Joad et Nebraska, qui sont un peu ces deux albums folk. Pour moi, Bruce Springsteen, c'est un Steinbeck numéro 2, c'est tout sauf beauf. Et c'est marrant parce qu'en France, il y a un consensus. Genre, Springsteen, c'est les motos, le bandana, c'est Johnny, quoi, tu vois.
Oui, 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 tout
et
à fait.
C'est étonnant parce que. Parce qu'en fait, bah ouais, non, pas du tout. Enfin, pas pour moi, en tout cas.
Oui, il y a de la moto, il y a du bandana, mais ça veut. Mais pas forcément.
Et aux États-Unis, c'est pas du tout un beauf. Bien sûr. Ça peut changer des pays, ça peut changer d'un pays à un autre.
Ouais, ouais.
T'as raison qu'il y a un côté en fait social avec la daube, sociologique, pardon.
Vraiment, vraiment. Ouais, je pense que vraiment. Et effectivement, moi, je pense qu'en fait, la daube, ça peut être un petit peu n'importe. Alors non, je peux pas te dire ça parce que j'allais dire c'est ce qui sort complètement de ce que tu vas écouter habituellement. En revanche, j'ai phasé l'été dernier sur, alors pas très original, mais sur les 4 saisons de Vivaldi. Ça sort de ce que j'écoute d'habitude. On va pas dire que Vivaldi c'est une daube pour autant.
C'est une petite daube. Peut-être à l'époque, c'était considéré par une daube. Alors, c'est par les indés, par les compositeurs indés. Ils étaient, ah putain, Vivaldi, c'est un vendu.
Tellement
regarde,
mainstream.
Il a joué chez le prince de machin.
Énorme beauf, ce gars.
Énorme beauf. Vraiment. C'est sûr. Mais à mon avis, on rigole, mais je suis sûre qu'il y avait déjà ce genre de problème.
C'est
entre
très
les,
possible.
Entre les indés et les vendus, à mon avis, c'est sûr. Hein.
C'est très possible.
Mais bon.
Ouais, je. Parce qu'en fait, je vais avoir beaucoup de daube. Qu'est-ce qui va être de la daube ? Ouais, en fait, je pense que
c'est. C'est pas que musical, tu veux dire, pour toi. Il y a vraiment un truc assez sociologique.
Tout à fait.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Complètement.
Par exemple, ouais, attends, comment il s'appelle ce mec ? Le petit blond, pas Zac Efron. Merde.
On a des petits blonds, il y en a plein.
Un petit blond américain, tu sais, qui fait un peu le malin.
Justin Bieber.
Justin Bieber, voilà.
Il est canadien.
Est-ce que c'est daube, Justin Bieber, par exemple ?
Avec mon passé, mon historique musical, etc. Oui, c'est de la grosse daube.
Ouais,
c'est quelqu'un que j'ai toujours méprisé sur le côté musical. Ce côté intellectuel aussi, mais bon.
Ouais,
enfin, parce que en interview, c'est quelqu'un qui m'intéresse pas. Mais c'est moi, je me définis comme étant une personne qui va écouter essentiellement de la chanson française ou alors du rock et de la pop britannique, en tout cas anglophone, etc. Oui, pour moi, Justin Bieber, c'est pas de la bonne musique. En revanche, sa chanson Boyfriend, qui représente tout ce que je déteste, j'adore, en fait.
Tu l'adores?
Ma tête bouge toute seule, en fait.
Oui, t'as raison, il y a aussi une dimension corporelle quand même. Moi, c'est marrant, j'ai ça par exemple avec l'électro ou la techno, enfin l'électro en général. Depuis toujours, j'ai jamais compris l'électro. J'avais des potes au lycée qui étaient très branchés électro. On est même allé, j'adorais mes potes, alors je les suivais partout. On est même allé à Berlin en boîte, tu vois. Et moi, je détestais ça. Et depuis, je pense que j'ai un mini trauma avec l'électro parce que à Paris, c'était cool. À un moment d'écouter de l'électro, ça faisait cool, en tout cas dans le certain milieu avec lequel je traînais un moment, fallait être cool, et donc voilà, donc j'ai une aversion pour ça, mais je dois admettre que putain, ça fait un truc à mon corps,
bah
quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que tu me mets dans une soirée électro, j'ai ma tête qui bouge, j'ai un truc, il y a quelque chose, une partie de moi aime, mais l'autre n'aime pas du tout.
Oui.
C'est étrange, mais oui. C'est juste qu'on est pluriel, j'imagine, on a un corps. On a sûrement une âme,
personnellement,
on a un cerveau.
Je doute, mais...
Oui, bon, je sais pas, tu vois, Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même... Il y a une partie de nous, en gros, qui est complètement corporelle et qui réagit à la musique, une autre partie qui est complètement intellectuelle, qui réagit aussi, et une partie, appelons-la comme on veut, peut-être émotionnelle, voilà, et qui réagit encore. Moi, je sais que c'est ma partie émotionnelle qui gouverne. Si je suis pas émue, j'aime pas. En fait, je suis là, je suis pas émue, quoi. Donc,
tout à fait.
Voilà. Et je peux être émue pour des choses très joyeuses aussi.
Exactement.
Tu vois, je peux.
Oui. L'émotion n'est pas que tristesse. Hein.
Non.
Ça peut être la joie que ça te procure.
Exactement. Mais tu vois, quand c'est que le corps qui réagit, par exemple, ça me suffit pas, quoi.
Oui. Bien sûr, mais je pense que même si c'est trop bizarre de m'entendre dire ça, Boyfriend de Justin Bieber, c'est avec quelque chose qui m'émeut, alors que tu vois, séparer tous les éléments, que ce soit les paroles, que ce soit sa voix, que ce soit la mélodie, etc., m'intéresse pas, le tout ensemble,
c'est marrant, ça t'émeut.
Il se passe quelque chose. Alors je dis pas que c'est quelque chose que j'écoute tous les jours, je ne m'y bute pas,
c'est
quoi,
marrant.
Mais si ça tombe en shuffle sur mon portable, je vais l'écouter.
Alors est-ce que parfois, moi j'ai une chanson comme ça, c'est putain, qu'est-ce qui chante ça, pardon, j'ai dit un gros mot, j'ai dit le P word,
on n'est pas aux États-Unis vraiment, tu peux dire ce que tu veux,
le P word. Elle s'appelle Fireflies. Qu'est-ce qui chante ça?
Own City.
Oui, c'est ça.
You would not believe your eyes. Mais bien sûr, on l'écoutait encore avec Florian il n'y a pas longtemps.
J'aurais pu la choisir. Bah, on l'écoutait avec Florian aussi, complètement.
Bon, Florian,
évidemment.
Elle est pour toi.
Et moi, cette chanson, pour moi, elle me fait un truc, mais je sais pourquoi elle me fait un truc, c'est parce qu'elle me rappelle un souvenir.
Ah oui.
Il y a aussi ça. Il y a l'ancrage des chansons que tu découvres dans un moment où l'amour amoureux qui fait que t'es amoureuse de quelqu'un qui adore un truc et toi t'aimes pas ce truc mais cette personne l'aimait,
tout à fait,
tu vois, genre moi j'en avais un comme ça qui était fan de ceux qui ont fait Hotel California, j'oublie tout le temps
Eagles.
The Eagles, ouais, le chanteur de The Eagles, il était fan de ce mec là et je ne comprenais pas. Et j'avoue qu'aujourd'hui, The Eagles, c'est ancré dedans.
Bien sûr.
Donc voilà, tout ça, ça peut constituer des daubes, peut-être.
Oui, tout à fait.
Enfin, des daubes, un rapport affectif à ce qu'on considère comme une daube.
Ouais.
En tout cas, pour moi, la daube, je ne le vois pas tant sous l'angle sociologique des choses, mais plus vraiment qualité musicale, quoi.
Tout à fait.
Recherche, voilà, est-ce qu'ils se sont pris la tête, est-ce qu'il y a un risque, est-ce que...
Mais qui reste subjective, effectivement, parce que c'est ta définition, effectivement, de ce qui va être une bonne musique, ça va être la définition de plein de gens, d'ailleurs. Hein.
Mais pas forcément tout le monde.
Oui, il y en a pour qui la qualité, justement, ça va être... Ce qui va se placer un petit peu, j'ai l'impression, entre l'évidence et la simplicité, justement, la facilité.
Oui, complètement.
Je ne suis pas surpris, mais ça reste efficace sur moi, et du coup, c'est ça qui...
Ouais, et puis il y a des gens qui utilisent la musique pour ça. Moi, je vois, par exemple, le clip de Julien Doré, tu vois, quand j'ai fait ses premières parties un petit peu. C'est un public qui a envie de s'éclater, tu vois, qui a envie de s'amuser, de rire, qui a envie de voir de la magie aussi, tu vois, qui a besoin d'être amusé, en fait. Et moi, j'ai pas du tout ce rapport-là à la musique, mais si j'ai envie de m'amuser, en fait, moi, c'est pas du tout dans la musique que ça se passe.
Oui, d'accord.
Si je veux m'amuser, j'ai une Game Boy, je sais pas, ou des bouts de pétanque.
Toute seule avec son,
son
cochonnet.
Non, mais tu vois, si j'ai envie de me marrer ou quoi, je fais des blagues avec mes potes. J'ai complètement. Je vais pas chercher ça dans la musique, mais c'est. Mais par contre, c'est. Effectivement, c'est très personnel à chacun. C'est complètement OK. C'est vaste la musique, quoi. Ça peut servir à tellement de choses.
C'est marrant. C'est marrant.
C'est marrant. C'est marrant que tu dises c'est marrant. C'est souvent.
Je trouve que c'est marrant. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le LOL, donc c'est pour ça. Non, mais. En vrai, ça m'étonnait ce que tu disais, mais je crois que je suis aussi très sérieuse avec la musique. Je crois que je ne m'amuse pas dans la musique. Mais en revanche, tu vois, je ne vais pas rire avec la musique, mais j'ai aussi besoin que ça m'apporte de la joie, pas de l'amusement.
Ouais,
mais moi, cette chanson de Jonas Brothers, voilà, qui était ma daube, elle me procure énormément de joie.
Ouais, elle te fait du bien.
Elle me fait pas rire, mais par contre, j'ai envie de sauter partout, j'ai envie de chanter, j'ai envie que les gens... D'ailleurs, je tanne toujours nos amis musiciens de la reprendre. Parce que mon rêve, c'est qu'on danse tous dessus, mais personne ne l'aime.
Ah, moi, je la connais pas, mais je vais l'écouter, je vais considérer ton idée.
Merci.
Même si je pense que je vais te faire une version folk assez déprimante, et tu vas me dire non.
Franchement, mon rêve, quand même, c'est déjà ça. Mais tout à fait. Je crois que je suis très sérieuse avec la musique, et plus qu'avec les autres formes d'art. Enfin, tu me fais réaliser des choses.
Et là où tu vois un film, ça peut être. Moi, je sais que le cinéma, pour moi, c'est plus ludique.
Ouais.
Il faut que ce soit facile. Certains soirs, pas tout le temps. Il y a des fois où, bien sûr, je suis prête à manquiller Romer, tu vois.
Oui.
Et d'autres soirs où vraiment je suis là, genre, ah non, je veux une comédie romantique.
J'allais dire camping. C'est pas romantique.
Ou camping. Ouais, ou un truc hyper simple, ou une série, Netflix hyper con. Et le fait que ce soit peut-être un peu con, c'est important, en fait. Et il y a sûrement ça, ouais, dans la musique, dans le côté aussi guilty pleasure, je pense. Bon, après, moi, clairement, par exemple, à un mariage ivre morte, parce que l'alcoolémie change aussi le rapport à la musique. Moi, les lacs du Connemara et la queue leu-leu à un mariage, je suis trop contente.
Tu es là.
Je suis là. Je fais partie des gens qui font la queue leu-leu.
Tout à fait. Je pense que même que tu es celle qui initie le mouvement de la queue leu-leu.
Je suis même un peu nazie des queues leu-leu, j'avoue. J'aime regarder un espace et voir quel parcours de queue leu-leu on pourrait faire. La maroquinerie, d'ailleurs, est un espace très intéressant pour une queue leu-leu. Si tu regardes bien, il y a plein d'escaliers.
Tout à fait.
Le trabendo.
Bien sûr.
Beau parcours de queue leu-leu possible.
Oui, un peu sportif, mais complètement.
Voilà. Mais du coup, c'est pas forcément. Est-ce que là, on parle de musique? Je sais pas. Là, on sort de la musique. Là, on est carrément dans l'expression. On arrive à un stade quasi troglodyte de soi, enfin pas troglodyte, mais cro-magnon, quoi. Tu vois, un stade reptilien de notre cerveau. On est ivre mort, on fait que le leu. Finalement, il pourrait y avoir les lacs du Connemara ou Dusty Springfield, ce serait pareil.
Tu vois, ce serait très drôle.
Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, un mariage, je suis quand même clairement. Si tu me mets. Je sais pas, si tu mets un truc hyper sérieux, si tu mets du Vivaldi à un mariage, je vais pas être contente. Je vais avoir besoin de balavoine ou de choses comme ça, comme tout le monde, c'est important, parce que
comprends.
C'est la fête, en fait.
Je comprends. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Et alors, dernière question, alors on pourra la couper si jamais.
Oui.
Mais je sais que tu as fait une reprise avec Florian à un mariage, justement, de Lucky de Jason Mraz.
Oh my god, mais comment tu sais ça?
Bah, Florian.
J'adore, mais oui.
Parce qu'une fois, en fait, je me suis retrouvée, je crois que la scène, vraiment, c'est très drôle. On était avec l'autre Florian. Me suis retrouvée à juste commencer à la chantonner. Florian a embrayé. En fait, on a fait toute la chanson. On la connaissait par cœur.
Avec l'harmonie et tout.
Bah, oui, vraiment. Enfin, parce que moi, je chante pas très bien, mais Florian est un excellent chanteur, donc il harmonise, etc. On a vraiment fait les. Genre on a tout fait ensemble et tout. Et après il m'a dit, je l'avais chanté à un mariage avec Loni.
En Allemagne, dans la forêt noire.
Voilà, donc improbable. Oui. Je me demandais comment tu la ressentais, cette chanson. Est-ce que c'est une daube?
Alors elle, oh non, pas du tout. Non, elle, oh, alors pour moi c'est une daube de production. C'est-à-dire que pour moi, je la classe dans les bonnes chansons. C'est une bonne chanson, pour le coup, assez surprenante.
Ouais.
Travaillée, vocalement incroyable et tout. Par contre, je me souviens plus trop, faudrait que je la réécoute, mais dans ma tête, là, dans mon souvenir, c'est une daube de production. C'est-à-dire que c'est produit commercial.
Avec le cul.
Avec le cul. Avec une réverbe, tu vois, une espèce de réverbe toute maquillée. C'est une chanson qui est, en fait, tu l'aurais mise justement à Nashville, dans un studio, avec un micro à ruban. tu sais, une belle room, une guitare un peu moins gling-gling, tu vois, avec plus de risques dans la production, ce serait une grande chanson, ce serait genre waouh. Mais là, là, le problème, et c'est pour ça que je pense qu'en fait, la daube peut se scinder. Il y a des chansons de daube, il y a des productions de daube, il y a des. Parfois c'est l'arrangement, parfois c'est les voix. Mais non, c'est une bonne chanson.
C'est une chanson qui méritait mieux, quoi.
Ouais, ouais, je trouve. Et souvent, c'est comme ça.
Et alors, donc, du coup, la dernière question qui découle de ça, c'est est-ce que tu penses que, justement, Hello de Evanescence pourrait sortir de son statut de daube à tes yeux si meilleure production, si même mélodie et même parole, si tu veux, et peut-être même interprète, mais dans un autre contexte, non, ça reste, non. Ça non. reste de l'âge.
Je pense que c'est une daube intégrale. Dans le sens où, dans tous les cas, que ce soit l'interprétation, les parties de piano, l'arrangement, ça va pas. Non, c'est trop facile. Ouais. Dans tous les cas, là, il y aurait trop de petites choses. Mais bon, ça dit, si on rattrapait un peu tous ces aspects, peut-être qu'on pourrait en faire un machin. Mais non, le seul truc que je sauve vraiment, c'est que je crois que c'est chanté avec le cœur quand même.
Et non pas avec le cul, bien sûr.
Non, pas avec le cul. Non, c'est pas quelqu'un qui se fout de ta gueule entièrement.
Tout à fait.
Tu vois, là où il y a vraiment des gens, t'as l'impression qu'ils se foutent de ta gueule quand même. Là, non.
C'est honnête.
Là, je sauve quand même l'honnêteté derrière tout ça. L'honnêteté de elle, en fait. Elle avec son piano-voix, en tant que pianiste, en tant que chanteuse. Tous les gens autour, je sais pas.
Oui.
Mais elle, non, voilà.
Ce qui fait que tu l'aimes quand même, quoi.
Ouais, je l'aime quand même. Je remercie quand même Amélie et ses mitaines noires.
Bien sûr qu'on ne vit pas.
Voilà.
Tout à fait. Oui. Bah, merci beaucoup, Loni.
Merci
pour ton intervention.
Tra-la-la-la-la.
Bye.
Bye.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.